Donc je pense que je peux dire que j'ai un âge qui me permet d'affirmer que, par expérience, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, pas toujours. J'ai une collègue ces derniers temps qui est fortement éprouvée et qui me disait aspirer à une forme de routine, un jour et puis le suivant qui se ressemble. Rien de triste et de monotone dans ce désir exprimé, juste le besoin de tranquillité et de sécurité. Or, la vie nous oblige parfois à des sorties de route, des déviations, des bifurcations non prévues, appelez ça comme vous voulez. Alors, on a vécu début juin une sortie de route, à la fois individuelle et familiale, avec la maladie de notre fils aîné. D'autres parmi nous ont vécu un deuil, un chômage, une séparation, une perte d'emploi. Et je me suis beaucoup interrogée ces dernières semaines, non pas sur pourquoi ou comment j'ai pu vivre ce temps de déviation, mais comment et dans quel état je vais reprendre le chemin que j'avais quitté, cette routine dont parle ma collègue. Alors, comment je vais reprendre le fil de la vie en intégrant des nouvelles réalités? Alors, les séquelles d'une maladie, l'absence d'un être cher, un nouveau travail auquel je dois m'adapter, que sais-je? Alors, l'écriture rapporte des sorties de route, de crise, des temps où tout semble aller mal, où nous sommes dépassés, déstabilisés, et il nous est difficile de voir une issue ou de trouver une solution. Un des grands dénominateurs communs à ces récits que j'ai trouvés est que, bonne nouvelle, ces sorties de route ne durent pas toute la vie. Alors la sortie de route, elle nous fait peur parce qu'elle nous déplace et elle nous met en mouvement. Alors j'ai eu envie de relire avec vous le passage bien connu où Dieu fait faire un détour à son peuple, par souci probablement d'eux, avant de les emmener dans la terre promise. Et on va essayer de voir un peu les leçons qu'on peut en tirer, en tous les cas pour moi déjà, et puis pour nous aujourd'hui. Donc c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, et c'est le passage entre le verset 17 et le verset 22. Quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'était dit: il ne faudrait pas qu'à la perspective des combats, le peuple revienne sur sa décision et retourne en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le désert de la mer des roseaux et s'est rangé comme une armée que les fils d'Israël quittaient du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment solennel en leur disant: « Dieu ne manquera pas de vous visiter. Alors quand vous remonterez d'Égypte, emportez mes ossements avec vous. » Ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à la tête. Le jour, dans une colonne de nuée, pour leur ouvrir la route, et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer. Ainsi pouvait-il marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Alors, en plongeant dans ce passage, j'y ai vu trois principes. Il y en a peut-être beaucoup d'autres. En tous les cas, j'en ai dégagé trois. Il arrive que Dieu nous fasse délibérément prendre un détour. Le deuxième principe que j'y ai vu, c'est que, a priori, un détour que Dieu nous fait prendre n'est jamais inutile. Et le troisième, qui paraît évident quand on le lit, mais qui est plus difficile à vivre, c'est que Dieu est présent tout au long du détour qu'il nous fait prendre. Il arrive que Dieu nous fasse délibérément prendre un détour. Alors pour le peuple, il s'agit de traverser un autre voie de passage pour aller vers la terre promise. Alors c'est surprenant parce que la route la plus rapide aurait été de quelques jours et leur aurait permis d'arriver rapidement sur les lieux de la terre promise. Mais par ce chemin, Le problème, c'est que les Israélites auraient été exposés au combat. On peut lire les passages d'avant, ils sont affaiblis par la servitude. Et le peuple, il n'est probablement pas de taille à affronter ce chemin, certes plus court, mais plus éprouvant. Alors, le chemin aurait été, les aurait certainement effrayés. Probablement, ils seraient retournés en Égypte, découragés, et donc, par confort, auraient renoncé à leur liberté. Donc, Israël va donc passer, le peuple va donc passer par là où Dieu l'avait indiqué à Moïse dès le début, en fait, de l'Exode. Un détour qui aurait dû durer a priori un an, va durer 40 ans. Étrange trajectoire qui semble à l'opposé du but annoncé au départ. Paradoxal pour ce peuple qui était déjà épuisé par l'épreuve de l'esclavage et qui pourtant doit encore supporter le poids des privations pendant ce long périple. Et pourtant, c'est là que Dieu les conduit. Alors, quand nous sommes forcés de prendre un détour, ne croyons pas que Dieu a perdu le contrôle. En tous les cas, ce passage nous rappelle que Dieu n'a pas perdu le contrôle et qu'il sait ce qu'il fait. Il nous place délibérément dans ce détour. Oui, mais alors c'est là que le doute peut nous assaillir. Dieu manque-t-il d'amour pour moi, pour ma famille ? Pour mon église, Dieu est-il injuste? Pourquoi dois-je subir ça? Alors, qu'est-ce qui me rend capable de tenir bon et qu'est-ce qui a rendu le peuple capable de tenir bon? Alors, deux choses, j'y ai vu deux choses, peut-être. Déjà, une mémoire qui l'accompagne. Celle de la foi au vrai Dieu à travers les ossements, la symbolique des ossements de Jacob. Le peuple, il est précédé dans son périple par tous les patriarches. Et le petit reste, il n'est pas tout seul. Il est accompagné par toute son histoire. Et dans son histoire, l'histoire dit que Dieu a été fidèle. Et en prenant les ossements de Jacob, quelque part, la symbolique, elle est là. Oui, Dieu, il y a une histoire, il y a un Dieu qui a été fidèle et il le sera encore là, dans ce détour. Comme pour nous aussi et toujours. Les ossements étaient un rappel que Dieu était en train vraiment d'accomplir la promesse. Alors, un détour que Dieu nous fait prendre n'est jamais inutile. Ça, c'est le deuxième principe que j'y ai vu. Alors, sur le moment, Dieu n'a pas donné aux Israélites les raisons de ce détour. C'est plus tard qu'il les a expliquées à Moïse. Et que Moïse les a indiqués dans le récit. Dieu savait que le chemin le plus court, il rencontrerait la guerre pour se rendre au Canaan. Cette guerre, elle allait être un obstacle trop grand pour eux. Dieu, il connaissait le cœur de son peuple, le cœur fatigué par l'esclavage, et il savait que probablement ils allaient fuir et retourner en Égypte, préférant l'esclavage à la liberté. On connaîtra plus tard dans les chapitres qui suivent comment la rencontre avec Dieu, entre Dieu et son peuple au mont Sinaï, sera d'une importance extrême. Parce que c'est là qu'ils recevront la loi pour savoir comment être saint devant Dieu, pour savoir comment obtenir la grâce, pour savoir comment rendre un culte à Dieu, pour savoir aussi comment vivre en société. C'est là aussi qu'ils développeront une identité nationale et qu'ils verront que l'Éternel, c'est leur roi qui les mène dans la bataille. Alors oui, tout ce détour, il a peut-être été nécessaire pour préparer à vivre le peuple comme Dieu l'avait prévu. Dieu leur fait faire un détour qui leur permettra d'acquérir leur statut de peuple de Dieu libre. Alors pour nous aussi, le détour donne le temps d'apprendre, le temps de quitter peut-être une mentalité. Le désert, c'est un lieu sec, c'est vide, c'est inhospitalier. Et puis face au vide, on peut prendre peur. Mais on peut aussi ouvrir la possibilité de nous abandonner, de faire confiance, d'écouter. Le peuple, il ne peut que compter sur Dieu, hein, qui se manifeste, il guide, il nourrit et il protège à ce moment-là. Désert, détour, bifurcation, autant de mots qu'on peut mettre dans nos vies, dans ces lieux d'épreuve, qui deviennent des lieux de croissance spirituelle. Pour ma part, qui deviennent des lieux de rencontre avec soi-même, avec ses limites, ses possibilités, ses freins, mais aussi des lieux qui deviennent des lieux d'approfondissement avec Dieu d'abord, mais aussi avec les autres. Une certitude et un principe, Dieu est présent tout au long du détour qu'il nous fait prendre. Le peuple, il est guidé, hein. Il est éclairé jour et nuit, nous dit le texte. La colonne, signe de la présence de Dieu pour empêcher la petite poignée d'hommes de se perdre, elle est présente. Et son but, c'est que le peuple ne s'égare pas, parce que fatigué par les épreuves, parce qu'ils avaient vécu avant, épuisé, l'égarement, il est à tous les moments possibles. Alors la colonne de feu, elle est là, elle éclaire, la nuit sans étoiles, jour et nuit. Oui, le peuple n'est pas seul pendant ces 40 jours. Dieu pourvoit. Alors, il ne pourvoit pas, il ne guide pas juste au début de la bifurcation. Et puis, il s'en va après. Non, le texte nous dit que pendant jour et nuit, une colonne de nuée ou de feu guide le peuple. Dieu s'adapte aux circonstances et très concrètement dit au peuple, tu peux me faire confiance à tout moment. Je vais te mener là où je t'ai promis. Et là, le peuple apprend. Il apprend sur le chemin de traverse à dépendre entièrement de Dieu, même s'il ne comprend pas tout, et à lui faire confiance, même si les circonstances semblent défavorables, parce que la promesse a été donnée. Alors, le découragement peut s'abattre, et la colonne est là pour maintenir à flot. Elle est un signe visible de la présence de Dieu aux côtés du peuple. Et dans nos sorties de route, quand le découragement arrive, et il arrive, il nous faut discerner ces colonnes de feu. C'est ces nuées qui sont présentes jour et nuit. Alors ça peut être ce que moi j'ai pu constater, ça peut être une parole d'encouragement d'un frère, d'une sœur, d'une infirmière, d'un voisin. Ça peut être un passage biblique, ça peut être un chant, ça peut être un paysage, un lever de soleil. En fait, discerner en étant à l'écoute quelles sont les colonnes de feu, les colonnes de nuée qui nous guident dans les épreuves. Parce que Dieu désire nous guider, nous conduire. Alors comment vivre au mieux ces sorties de route, ces déviations, les accepter, ces temps à part? Alors, peut-être comme pour le peuple, les prendre comme des opportunités de se laisser transformer, encore et toujours. Alors, je reviens à la question qui me taraude depuis plusieurs semaines. Donc, je vous la pose et je me la suis posée. Alors, comment on reprend le cours de sa vie après une bifurcation? Les sorties de route, quand on discute avec les gens qui ont été éprouvés, elles sont souvent marquées temporellement, bien précises, datées, souvent datées de manière précise. Il y a un avant et un après. Et pour les Israélites, il y a un avant et un après. Il y a l'esclavage, il y a le temps de la sortie de route, et il y a l'après, où ils entrent dans la terre promise avec leur stature d'enfants de Dieu libres. Jésus, après 40 jours dans le désert, il en ressort, revêtu de la puissance de l'Esprit, pour proclamer la bonne nouvelle. Et nous, nos sorties de route, comment en ressortons? Alors, je pense qu'on ne mesure pas toujours, dès le départ, l'impact, le pouvoir de transformation que cela a sur nous. J'ai eu l'image d'un caillou qu'on jette dans l'eau et qui laisse plusieurs traces concentriques. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ça en fait aussi, la sortie de route, l'impact qu'elle a sur nos vies. On reprend le cours de nos vies, peut-être plus fatigué, peut-être plus apaisé, peut-être plus sensible, peut-être déconditionné de certaines habitudes. En tous les cas, on revient transformé et pas comme avant. On reprend le cours de nos vies avec, en nous adaptant à une nouvelle réalité. Ça peut être, dans le cas de Timothée, notre fils, c'est les séquelles d'une maladie. Dans le cas d'un deuil, ça peut être vivre avec l'absence de l'être cher. Dans le cas d'une perte de travail, ça veut dire s'adapter à un nouveau travail. On reprend le cours de nos vies en nous adaptant à une nouvelle réalité. Et pour ma part, le temps du détour m'aura appris deux choses. La première chose, elle est réjouissante parce que c'est celle qui dit que le détour ne dure pas toute une vie. J'ai appris aussi que le détour, personne n'en est épargné. Et cette communauté d'épreuves me fait du bien parce que mon frère, ma sœur vit aussi des épreuves et des détours et peut être présent dans ces moments-là parce qu'il comprend ce que je vis. Le détour ne dure pas, il n'épargne personne. Et je peux m'appuyer sur le témoignage de ceux qui m'ont précédé et qui ont traversé un jour après l'autre les temps particuliers qui sont arrivés sur leur terre promise. Et la deuxième certitude, la deuxième chose que j'ai vue, c'est que sur ces détours, oui, la colonne de nuée, elle est là. Dieu me guide et patiente avec moi. Alors, arrivé en terre promise, le peuple a dû se réjouir en ayant la certitude d'être porté par Dieu. Mais je me suis dit, ils étaient peut-être quand même bien usés, bien fatigués de ces 40 années de désert. Et là aussi, encore et toujours, Dieu a été un soutien à leur côté et les a équipés pour ce nouveau temps de vie sur la terre promise. Alors oui, moi aussi, je peux revenir de mes sorties de route, de mes bifurcations, fatiguée. Peut-être que mon entourage trouve que j'ai changé. Moi, j'avais jamais les larmes aux yeux avant, c'est quelque chose qui m'arrivait jamais. Alors maintenant, potentiellement, je peux avoir les larmes aux yeux qui arrivent dans n'importe quelle situation. Donc maintenant, j'ai prévenu ma famille, je ne sais pas si ça va durer, en tous les cas, c'est une réalité. Peut-être que je reviens avec la difficulté de prier, la difficulté de louer, la difficulté de remercier Dieu, d'accepter que les choses ne seront plus comme avant. Alors la leçon que j'en tire, en tous les cas aujourd'hui, elle va peut-être évoluer comme les cercles concentriques, mais en tous les cas la leçon que je tire aujourd'hui, au stade où j'en suis, c'est qu'il faut peut-être y aller par petites touches, dans ce retour à la routine, tranquillement, me reconnecter au quotidien, quitter les peurs, rentrer dans cet après, accepter les changements paisiblement, en renouant peut-être avec une présence à Dieu, en réamorçant cette soif que j'avais peut-être perdue, rentrer dans ces temps plus calmes et non plus ces temps d'épreuve. Alors, comme l'onde laisse trace de plusieurs cercles après que le caillou soit tombé et jeté dans l'eau, les bénéfices de nos bifurcations ne nous apparaissent pas toujours dans l'immédiat. J'ai la certitude que Dieu promet une transformation vers la liberté. Alors, on pourrait y mettre bien des mots sur ces bénéfices de sortie. On pourrait dire que ça va nous apporter sagesse, maturité, apaisement, transformation. Mais j'ai appris aussi que dans ces détours, dans ces bifurcations, il n'y a pas toujours de mots pour dire les choses. Et c'est pas grave. Ou peut-être, je me suis dit, le seul mot qui convient, c'est le mot « vivant ». Parce qu'en vivant tous ces temps-là, c'est bien de cela qu'il s'agit. Dieu nous veut vivants. Alors, vivant sur terre, traversant les chemins de bifurcation et entrant dans la terre promise, vivant sur terre et témoin en toutes circonstances de sa fidélité et de son amour pour nous, témoin comme on peut dans ces moments-là, témoin comme on peut, mais surtout à ses côtés. Alors, je vous livre le verset qui, pour ma part, m'a beaucoup encouragée. C'est les paroles de Jérémie qui nous invitent à revenir toujours à l'essentiel chaque jour et à chaque moment, qu'on soit dans la joie ou dans l'épreuve. Jérémie rappelle que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je le dis, le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui.